et dans sa puissance, soit naturelle, soit gratuite. Deuxièmement, en tant qu'elle est l'instrument du Verbe de Dieu, unie personnellement à Dieu. Faites les petites distinctions, et puis les sous-distinctions, pour arriver à 5 distinctions. Si nous envisageons l'âme du Christ dans sa propre nature et dans sa puissance naturelle ou gratuite, l'on doit dire qu'elle pouvait produire les effets qui lui sont appropriés. Ainsi, elle pouvait gouverner les corps, régler les actes humains. De même, elle pouvait, par la plénitude de la grâce et de la science, éclairer toutes les créatures rationnelles inférieures à elle en perfection, de la manière qu'il convient à ces créatures. Si d'autre part nous envisageons l'âme du Christ en tant qu'elle est l'instrument du Verbe qui lui est uni, sous ce rapport elle possédait une puissance instrumentale capable de produire tous les changements miraculeux se référant à la fin de l'incarnation, qui est de restaurer toutes choses, celles qui sont au ciel et celles qui sont sur la terre. Quant au changement qui consiste à faire retourner les créatures au néant, vertibile iniculum, il correspond à la création par laquelle les choses sont tirées du néant. Aussi, de même qu'il n'y a que Dieu qui puisse créer, de même il n'y a que lui qui puisse annihiler les créatures, lui et Sartre. Lui seul, également, les conserve dans l'être pour les empêcher de retomber au néant. Il nous faut donc conclure en définitive que l'âme du Christ ne possède pas la toute-puissance en ce qui concerne les changements à produire dans la créature. Vous voyez ? C'est très beau comme article. C'est une espèce de grande vision merveilleuse des trois. Alors, regardez bien, parce que je crois que ça, c'est très très important. C'est ça, la chose merveilleuse du traité de saint Thomas sur le Christ. C'est que c'est la grande synthèse théologique. La Trinité, la création, tout. On peut pas... C'est ça qui est merveilleux. C'est la grande synthèse, si vous voulez. Alors, on comprend très bien la division de la somme. Prima pars seconda, tertia pars. C'est la grande synthèse. Tout est repris. Alors, pour bien comprendre ça, évidemment, il faut en acte la prima pars pour comprendre ce que ça représente. En acte, la création. Alors, regardons bien ces trois transmutations. Alors, la première, elle est naturelle, qui a pour cause son propre agent et qui respecte l'ordre de la nature. Donc, quand vous connaissez, quand vous grattez sur le papier, c'est une mutatio naturelle. Quand vous le facere, le travail humain, c'est une mutatio naturelle. L'autre, miraculeuse, qui a pour cause un agent surnaturel et qui dépasse l'ordre et le cours ordinaire des choses. Alors, vous voyez, là, saint Thomas aurait pu distinguer aussi les choses préternaturelles, les prodiges. La différence entre les prodiges et le miracle. Vous savez bien. Pas toujours commode de distinguer les deux. C'était la grande question que mon neveu du Texas avait posé la question quand il avait assisté à des choses au Texas, parce que au Texas, le Saint-Esprit prend un langage particulier. Alors, il a un langage particulier. Alors, il avait assisté à cette cérémonie extraordinaire de charismatique protestante, c'était dans un temple protestant, qui subitement s'était dit « Je me sens poussé par l'Esprit Saint pour guérir tous ceux qui sont dans l'Assemblée et qui sont malades. » Alors elle était mise au cœur, elle s'était mise au cœur, et puis alors il y avait une procession. Et dans cette procession, c'est toujours le Benjamin qu'il faut regarder. Et le Benjamin souffrait d'une obésité extraordinaire. Alors tous s'approchaient, elle levait les mains, tous tombaient, et ils étaient guéris. Alors tout le monde attendait de voir l'effet pour le dernier. C'est un petit tonneau ambulant. Alors, tout le monde regardait. Alors il arrive, il tombe par terre et il maigrit de 30 kilos. Alors, on me posait la question, est-ce que c'est un prodige ou est-ce que c'est un miracle ? Textuel, hein, il l'a vu. Moi je ne l'ai pas vu. Mais c'est pas la presse, c'est lui qui a vu ça. Ça, c'est impressionnant. Le petit tonneau tombe par terre. Alors j'ai demandé si son pantalon tenait encore. 30 kilos. Alors est-ce que c'est un prodige, est-ce que c'est un miracle? C'est pas si commode que ça, tu vois, de discerner les deux. Alors évidemment, j'ai pas conclu. J'ai dit qu'il fallait voir l'individu avant et après. Celle est témoin. Évidemment, on pouvait prendre une photographie avant et après. Alors, qu'est-ce que ça correspond? Et ça, c'est la distinction seconde, vous voyez. Il y a les prodiges. Des prodiges préternaturels, qui ne sont pas des miracles. Le miracle implique l'intervention de Dieu, de la cause première. Donc, le miracle a quelque chose de tout à fait particulier. Il ne peut pas s'expliquer par le point de vue des transmutations naturelles. Tandis que les prodiges peuvent s'expliquer par les transmutations naturelles. C'est la différence. Hein, le démon n'agit pas sur l'être. Il n'est pas créateur. Oui.
La mer rouge, alors, dans ce cas-là, c'est un prodige.
Elle pourrait voir exactement ce qui s'est passé. Elle a maigri de 30 kilos. Elle s'est refoulée. Alors, venez, vous savez toutes les explications qu'on donne aujourd'hui. C'est la question du vent, c'est la question. Oui. Alors, si c'est la question du vent, ça peut être prodige en ce sens que c'est un événement providentiel qui fait que Dieu, qui savait ce qui est arrivé, a mis l'homme posté à ce bon endroit, à ce moment-là.
C'est ça qui est miraculeux.
C'est ça. C'est pas miraculeux au sens absolu. C'est, je dirais, une conduite merveilleuse de Dieu. Merveilleuse. Quand on regarde les merveilles de Dieu, il y a des merveilles de Dieu qui sont plus grandes. Vous voyez, plus grandes dans quel sens? Plus grandes qu'un miracle, par exemple.
Quand on soigne une maladie, enfin, quand il y a une maladie qui est soignée, et que maintenant,
oui,
qu'à l'époque, on ne savait pas soigner, que maintenant, on sait soigner.
Oui, ça peut être une merveille de Dieu.
C'est considéré comme un miracle. La guérison de l'UL, etc.
Oui, oui, oui.
Maintenant, on sait la soigner.
Ah ben, on ne la soigne pas de la même façon.
Ah non, on la soigne pas, oui, on sait la.
Mais c'est ça la question. Hein. C'est qu'au fond, il n'y a pas eu, si vous voulez, d'intervention seconde. Tandis qu'on peut aujourd'hui guérir, mais le mode miraculeux, c'est aussi la rapidité de la chose.
C'est la durée.
Oui. Et que
ça. Si on n'a pas grossi après, c'est peut-être miraculeux.
Toute la question de ça. Il peut y avoir un choc psychologique, n'est-ce pas, qui fait que. Oui, oui, c'est que je vous dis, le miracle implique une intervention immédiate de Dieu.
C'est ça, donc sa personne, c'est-à-dire qu'on fait référence à sa personne.
Oui, à la toute-puissance de Dieu, oui. Immédiatement. Donc, au fond, le miracle agit sur l'être.
Mais enfin, moi, je le voyais du côté du patient.
Tandis que du côté. Ah oui, moi, je le vois du côté. Oui, théologiquement, je le vois du côté de Dieu. Vous voyez, du côté du patient, donc du côté de l'effet, c'est toujours très difficile. Et alors, souvent. La rapidité de l'événement est comme le signe. Parce que ça ne peut être qu'un signe. Hein. Je ne peux pas avoir l'intervention de Dieu. Donc je ne peux le signaler que c'est un signe. C'est pour ça que Saint-Jean parle de signe.
Oui, c'est ça. Pour qu'il y ait le miracle, c'est qu'il faut que, justement, celui qui a reçu, enfin, le don, fasse référence à Dieu et dise oui.
Ah non, non, non. Pas nécessairement. Il n'a pas nécessairement conscience de ça. C'est par rapport aux autres. Oui, c'est ce que diront toujours les gens, venant dire. Et c'est pour ça qu'on a créé une commission pour l'autre. On dira, c'est inexpliqué, mais ça s'expliquera. Alors, quand il s'agit d'un miracle, ça ne s'explique jamais. Parce que c'est l'intervention directe de Dieu. Oui.
Les apparitions, c'est lors du. Par exemple, l'apparition des anges à Abraham, ou l'apparition de la Sainte Vierge, quand elle apparaît.
Oui.
Est-ce que ça tient du miracle ou pas du tout?
Les apparitions des anges. Les apparitions des anges, c'est ça que vous voulez dire.
Si,
ben si c'est un véritable ange, toute la question c'est de savoir si c'est un petit fantasme ou un véritable ange. Le démon peut créer des fantasmes. Ça c'est évident, même objectivement. Tandis que si c'est véritablement un ange envoyé de Dieu, alors je ne dirais pas que c'est nécessairement un miracle, parce que envoyé de Dieu, ça regarde son gouvernement. Ce serait plus le point de vue prudentiel. C'est une sollicitude particulière de Dieu qui montre qu'il est très proche de nous et qu'il nous envoie son messager. Envoyer son messager pour Dieu, ce n'est pas miraculeux, c'est normal. Pour nous, ce n'est pas normal. Oui. De pouvoir être directement relié avec les anges et de recevoir la motion de l'ange. Ce n'est pas normal, c'est une intervention pour nous, hein, d'une providence merveilleuse de Dieu sur nous. Alors, on pourrait dire que c'est miraculeux pour nous. Oui.
Ce qui est miraculeux, c'est le voir.
Oui, c'est ça, de le voir.
Non,
ça dépend, parce que Dieu peut faire un fantasme qui soit à notre disposition, vous voyez. C'est comme pour les apôtres, quand ils ont vu le Christ, est-ce que c'est miraculeux? Non. Oui. Parce qu'il y avait une adaptation. Nous ne pouvons pas voir un ange, nous ne pouvons pas voir le corps glorieux du Christ. Notre regard est inadapté à ça. Donc nous ne pouvons pas le voir. Le Christ, lui, s'adapte à nous. Il peut s'adapter à nous. Et alors à ce moment-là, nous pouvons voir. Et voir objectivement, pas sur nous. Oui, exactement, sur nous. Alors vous voyez, alors ainsi par exemple la résurrection des morts, alors là évidemment c'est l'exemple le plus net de l'intervention. Alors vous voyez que quand on prend ces trois interventions, il faudrait mettre un intermédiaire entre le point de vue premier et le point de vue du second, toutes les choses préternaturelles. Qui ne sont pas nécessairement miraculeuses.
Est-ce que le préternaturel, il peut y avoir un préternaturel angélique au niveau...
Oui, sûrement. Les anges peuvent y agir beaucoup plus. Ce sont des artistes bien plus subtils que nous. Donc ils font des choses artistiques qui peuvent être très étonnantes et nous mettre dans un état d'admiration. Voyez, l'Apocalypse le montre, quand on voit l'intervention de la bête. La bête créera des choses telles qu'au fond, les gens crieront, mais il fera même parler la bête.
Mais est-ce que le préternaturel est toujours lié au groupe du démoniaque ou pas?
Pas toujours. Heureusement.
Parce que, dans le monde d'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de sortes de renouveau de toutes les pratiques.
Oui, très fort.
Les jeunes posent la question de savoir. Parce que quand ils...
Oui. Tourner les tables, puisqu'au fond c'est la chose classique. Faire tourner les tables et se servir de faire tourner les tables pour interroger. Alors, l'Église dit non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas prudent. Le démon peut se servir de ce domaine-là. Je ne dis pas qu'il s'en sert tout le temps. Vous voyez? Mais le démon, donc c'est une question de prudence. C'est une question de prudence. Faites attention, ne jouez pas avec le feu. C'est tout simplement ça que l'Église dit. Ne jouez pas avec le feu. C'est trop dangereux. Parce que le démon peut se servir de ça. Et le démon s'en sert pour, justement, nous capter, nous séduire. Le démon veut tout le temps nous faire perdre du temps et nous mettre dans des fausses pistes. Vous savez, c'est comme quand on est très pressé et qu'on veut alors aller très vite, on écoute n'importe qui, « Oh, il y a un raccourci !» On s'y précipite. Et puis on est obligé de revenir, on perd du temps. Et au fond, c'est comme ça qu'agit le démon. Il nous fait croire que, par là, on va avoir des connaissances merveilleuses. On pourra réaliser telle ou telle chose. C'est ça. Et c'est pour ça que l'Église dit attention. Alors, tout le domaine du magnétisme, vous comprenez, reste un domaine extrêmement difficile à préciser. Mais il ne faut pas dire que le magnétisme est nécessairement du démon. Mais non, le magnétisme est naturel. Et donc, il y a une possibilité de capter ces choses-là. Certains les captent. Certains ne les captent pas. Ce n'était pas une question de sensibilité. Et une question d'éducation de la sensibilité. Alors dire que c'est nécessairement du démon, non. Comme se disent le pendule, c'est nécessairement du démon. Mais non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que le pendule... Mais parce que c'est un phénomène naturel qu'on peut capter, le magnétisme. Et ça peut se capter alors. L'usage de tout ça est très délicat. Parce que justement, c'est un usage qui peut justement... tomber sous des influences étrangères, des influences démoniaques. Mais il ne faut pas dire que c'est du domaine du démon. Alors on remettrait tout l'univers au pouvoir du démon. l'univers possède les insensatés du Moyen Âge, hein, que la science et le développement de la science a complètement mis à l'écart. Bon, nous les redécouvrons aujourd'hui parce que nous découvrons les limites de la science aujourd'hui. Et on découvre que tout y a un domaine préterre scientifique, mais qui sont les insensatés. Alors les insensatés, c'est très difficile à préciser parce que justement, on ne peut pas les mesurer. Et que nous avons, nous, cette espèce de confiance dans une science qui se mesure. Et dès qu'on n'est plus dans la science qui se mesure, on se méfie. Il n'y a pas à se méfier. Parce que les insensatés, c'est le domaine de la cogitative, c'est le domaine de l'estimative. Alors, le domaine c'est ce que dit saint Thomas à propos de sentir un remède vous convient ou vous convient pas. L'animal le sent, et normalement, sauf les biches qui sont trop trop civilisées, alors peuvent à ce moment-là perdre ce sens de l'estimative. N'est-ce pas ? Parce que c'est ce qui est très curieux, dès qu'un animal est domestiqué, il perd de son estimative. Alors que quand il est sauvage, il l'a. Ce qui montre très bien comment l'homme trop éduqué que nous sommes, nous perdons complètement le sens de la cogitative. Et c'est pour ça qu'on fait tellement de bêtises. Parce que la cogitative, c'est la ratio particularis qui aide énormément la prudence, qui fait qu'on sent les personnes. Et sentir les personnes, c'est peut-être très dangereux de sentir les personnes, parce qu'alors immédiatement, il y a celles qui sont avec moi, celles qui sont contre moi. Attention! Alors l'intelligence doit dépasser ça. Mais quand l'intelligence uniquement est là, elle risque d'être purement rationnelle et d'oublier qu'il y a justement cette question du magnétisme et cette question de chaque personne émane quelque chose de très particulier qu'on capte ou qu'on capte pas. Les insensatés. Ça, c'est très très intéressant de rechercher ça. Il serait très intéressant de rechercher les insensatés par rapport au magnétisme. Parce que dans tout le magnétisme, c'est les insensatés. Alors dire que ça n'existe pas et que c'est uniquement le domaine du démon, ben non, ça c'est pas vrai. Ce serait, voyez, oublier qu'il y a tout ce domaine particulier dans le domaine sensible, dans le domaine du monde, qui est un domaine qui relaie.
Oui. Quand par concentration, on peut développer une puissance en soi. Je vois, par exemple, au niveau de la Chine, il y a une pratique qui développe par concentration une espèce de puissance qui, au bout d'un certain temps, peut donner même une puissance de guérison par contact.
Oui, tout à fait.
Est-ce que c'est de l'ordre naturel ou est-ce que c'est de l'ordre préternaturel ?
C'est très difficile. Il y a un fondement naturel, sûrement. Un être supérieur agit sur l'être inférieur. Si vous êtes en bonne santé, vous émanez des ondes qui peuvent aider. Si vous êtes au contraire en mauvaise santé, vous pouvez au contraire créer un milieu d'angoisse. Comment se fait-il que certains êtres pacifient et que d'autres êtres angoissent ? C'est purement naturel, ça. Dieu peut s'en servir d'une façon miraculeuse et préternaturelle, c'est évident. Il peut s'en servir même d'une façon surnaturelle. Mais il y a un fondement naturel. Oui. C'est le point de vue du spirituel sur la matière. C'est en ce sens-là que le corps humain, comme tel, est temple de l'esprit. Avec un petit T. Et avec un grand T. Il est temple de l'esprit, et c'est soit que le corps de l'homme est la mesure de tout le monde physique. Parce qu'il a quelque chose que le monde physique ne peut pas connaître, ne peut pas saisir. Bon, alors, vous voyez bien ici ce qui nous est dit. On va prendre des objections maintenant. Nous lisons dans saint Matthieu. Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Mais par ces mots ciel et terre, il faut entendre toute créature, comme le montre bien la parole de la Genèse. Au commencement, Dieu fit le ciel et la terre. L'âme du Christ a donc eu toute puissance sur les changements et productions dans les créatures. Réponse. Ainsi que le remarque saint Jérôme. La puissance a été donnée à celui qui, ayant été crucifié et enseveli dans le tombeau, ressuscita peu après. En d'autres termes, elle a été donnée au Christ considéré comme homme. Par ailleurs, nous avons reconnu que si toute puissance lui appartient, c'est que du fait de l'union hypostatique, l'homme est devenu tout puissant. Et bien que cette vérité fût connue des anges avant la résurrection, elle ne le fut cependant de tous les hommes qu'après la résurrection, ainsi que l'enseigne saint Rémy. Or, on dit qu'un événement se produit quand il parvient à notre connaissance. C'est donc en ce sens que le Seigneur déclare, après la résurrection, que toute puissance lui a été donnée au ciel et sur la terre. Oui, bien, c'est la question de la manifestation. La toute-puissance du Christ a été révélée aux hommes après la résurrection. Et donc la toute-puissance du Christ a été donnée au Christ à ce moment-là. Mais pas donnée comme si avant elle n'était pas, elle était manifestée à ce moment-là. Tout simplement. Et là, vous voyez, quand il parle de la toute-puissance, reconnaissons bien, il a la toute-puissance en tant que Verbe. Et la nature humaine, en tant qu'instrument de Dieu, en tant qu'instrument de Dieu, peut réaliser tout ce que Dieu veut qu'elle réalise. Instrument conjoint. Seconde objection. L'âme du Christ est plus parfaite que toute la création, que toute autre créature. Mais toute créature peut être mue par une autre. Saint Augustin écrit en effet, de même que les corps grossiers et inférieurs sont régis par de plus subtils et de plus puissants, ainsi tous les corps le sont par l'esprit. Principe de vie et de raison. À son tour, l'esprit dévoyé et pécheur se trouve régi par l'esprit qui est demeuré pieux et juste. Or, l'âme du Christ meut même les esprits suprêmes en les illuminant, ainsi que l'affirme Denis. Il semble donc qu'elle possède toute puissance relativement au changement à produire dans les créatures. Le Christ est roi. Puisqu'il est roi, il peut agir sur toutes les créatures. Alors, réponse de saint Thomas. Il est vrai que toute créature peut subir un changement de la part d'une autre créature, sauf l'ange le plus élevé, lequel néanmoins peut recevoir de l'âme du Christ des illuminations. Il est roi des anges. Mais parmi les changements qui peuvent être opérés sur une créature, il y en a que Dieu seul peut produire. Dès lors, tous les changements qui peuvent venir par le moyen des créatures, l'âme du Christ est capable de les produire comme instrument du Verbe, mais non par sa propre vertu. Certains, en effet, de ces changements dépassent la puissance de son âme, tant dans l'ordre de la nature que dans l'ordre de la grâce. Vous voyez, très important à voir ça. Il y a trois niveaux toujours à regarder, aussi bien dans notre âme que dans l'âme du Christ. Hein. Donc, dans l'âme du Christ, en tant qu'elle est forme, l'âme du Christ est une forme, et il y a une porte espace. Donc, dans l'âme du Christ, vous précisez la puissance qui est comme naturelle à cette âme. Donc, l'âme du Christ est la plus parfaite de toutes les âmes. La parfaite. Il y a la grâce qui donne une puissance qui dépasse la puissance naturelle, la puissance naturelle. Et puis l'âme du Christ peut être mise comme instrument. Donc elle est reliée au Verbe directement dans l'ordre de l'efficacité, est instrument. Donc dans toute activité du Christ, je peux regarder ces trois niveaux. La puissance naturelle, la puissance qui lui vient de la grâce, et en tant qu'elle est instrument. Et c'est en raison de l'effet, et c'est par l'effet que je remonte, en disant cet effet dépend du Christ en tant qu'instrument. Quand le Christ ressuscite Lazare, quand le Christ ressuscite, il est l'instrument du Verbe. Quand le Christ enseigne, c'est la toute-puissance par la grâce de la tête, son enseignement qui donne à Nicodème. L'enseignement qu'il donne sur le paraclet. Quoi ? C'est la grâce. Non, mais vous voyez, radicalement, c'est la grâce. C'est la science infuse, mais c'est la puissance qui relève du Christ-tête. Et puis, quand le Christ agit, naturellement, c'est cette toute-puissance naturelle. quand le Christ marche. Quand le Christ mange, puissance naturelle. Alors, vous allez me dire, toutes les activités du Christ sont transformées par la grâce. C'est très vrai. Mais la grâce ne va pas nécessairement transformer tout en toute puissance nouvelle. La grâce ne supprime pas la nature, mais transforme tout en faisant que toutes les actions naturelles du Christ étaient ordonnées à la gloire du Père et à notre salut. Alors, dernière objection, l'âme du Christ a possédé en plénitude la grâce des miracles, tout aussi bien que les autres grâces. Mais tout changement opéré sur la créature peut appartenir à la grâce des miracles. C'est ainsi que, miraculeusement, les corps célestes ont pu subir un changement dans leur cours, ainsi que le prouve Denis dans sa lettre à Polycarpe. Hein ? Polycarpe doit regarder cette lettre constamment. L'âme du Christ a donc possédé la toute-puissance relativement au changement à apporter dans les créatures. C'est agréable d'avoir une lettre reçue de Denis, n'est-ce pas ? Une poste aérienne. Comme nous l'avons déjà remarqué dans la seconde partie, la grâce des miracles permet à l'âme d'un saint de les produire non par sa propre puissance, mais par la puissance divine. Or, cette grâce a été accordée à l'âme du Christ d'une manière très excellente, à tel point qu'il pouvait non seulement faire des miracles, mais encore communiquer ce pouvoir à d'autres. Et c'est pourquoi nous lisons dans saint Matthieu, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna pouvoir sur les esprits impurs afin de les chasser et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus peut communiquer la grâce humide, la grâce charismatique de faire des miracles. Donc, il a les charismes, voyez bien ça, rejoint ce qu'on disait hier à propos de la science infuse. Il a les charismes selon un pouvoir unique, donc selon une modalité unique. Article 3, le Christ a-t-il possédé la toute-puissance sur son propre corps ? Oui. Le quoi ?
Cette capacité de communiquer les charismes.
Ah, c'est en tant que tête.
Ça implique l'union hypostatique.
Oui, c'est séparablement, mais ce n'est pas immédiatement l'union hypostatique. C'est la tête. Oui, la plénitude de la grâce. Ça relève la plénitude de la grâce, ça relève, donc vous voyez, c'est comme la science infuse, mais c'est par là. Alors, c'est toujours la même chose, est-ce que ça relève ? C'est toujours pour essayer de la raison propre. La raison propre, est-elle la science infuse ? Est-elle la plénitude de grâce ? Est-elle le mystère de l'union hypostatique ? Oui. C'est toujours ce que nous devons faire, hein, quand nous...
C'est pas la raison propre, mais un effet propre.
C'est un effet c'est propre, dont la cause propre, dont nous devons chercher la cause propre. Est-ce que c'est... Non, c'est jamais l'union hypostatique directement. Toujours par l'intermédiaire de la grâce. Forcément. Non, non, la grâce, la plénitude de grâce. Donc la grâce sanctifiante. Et la grâce sanctifiante, la plénitude de grâce qui le fait tête.
Je ne parviens pas à voir comment saint Thomas explicite la différence de tête des trois degrés dans son...
Oui.
J'ai l'impression que le 2 et 3 se ramènent, enfin, sont 1 chez saint Thomas. Il dit que le Christ, en tant que Dieu, a bien sûr la toute-puissance, mais en tant qu'homme, en fait, c'est encore en tant qu'instrument du Verbe qu'il a la toute-puissance.
Il n'est pas... En tant qu'instrument, il participe à la toute-puissance.
Oui, c'est la grâce.
Ah non, en tant qu'instrument, c'est autre chose. Il est instrument de Dieu, il est relié directement. Et Dieu se sert de lui comme Dieu se sert de quelqu'un comme sert de lui. Oui. Et puis alors, il y a la grâce, et puis il y a la puissance naturelle.
Mais chez saint Thomas, est-ce que ce n'est pas justement...
Quoi ?
Il dit bien.
Il dit les trois. C'est ce qui me semble. Voyons tout de suite, l'article 3, le Christ a-t-il possédé la toute-puissance sur son propre corps ? Alors, le 7 contre 1. On lit dans l'Épître aux Hébreux qu'il devait être en tout rendu semblable à ses frères et principalement ce qui regarde la condition de notre nature humaine. Voilà la préface qui dit toujours ça. Or, dans l'état de cette nature, la santé du corps, sa nutrition, sa croissance ne sont pas soumis aux décisions de la raison ni de la volonté, car les propriétés naturelles ne dépendent que de Dieu seul qui est l'auteur de la nature. Elles ne pouvaient donc dépendre du Christ, et par suite son âme ne fut pas toute puissante sur son propre corps. Surtout ce que vous n'avez qu'un pouvoir politique, hein, votre digestion. Ça ne dépend pas directement de vous. Hein. Vous pouvez être prudent, pas manger trop. Alors à ce moment-là, ça se fait plus facilement. Donc vous avez un pouvoir politique à ce point de vue-là. Mais vous ne pouvez pas guérir par votre volonté de telle ou telle maladie. Autre chose. Comme il a été dit, l'âme du Christ peut être envisagée à un double point de vue. Premièrement, au point de vue de la puissance et de la nature, qui lui sont propres. Sous ce rapport, de même qu'elle ne pouvait distraire les corps extérieurs de leur cours et de leur ordre naturel, de même elle ne pouvait modifier la disposition naturelle de son propre corps. L'âme, en effet, par sa nature propre, se trouve rigoureusement adaptée à son propre corps. Abet determinatam proportionem ad sum corporum. Ça, c'est très très important. Hein? Anima secundum propriam naturam abet determinatam proportionem. Une proportion déterminée. On traduit rigoureusement adaptée, c'est pas tout à fait rigoureusement adaptée. Elle a une proportion déterminée par son propre corps. En second lieu, on peut considérer l'âme du Christ en tant qu'elle est l'instrument, alors on retrouve, l'instrument uni personnellement au Verbe de Dieu, de ce chef. Toute disposition de son propre corps était entièrement en son pouvoir. Mais étant donné que la puissance active ne se réfère pas à proprement parler à l'instrument, mais à l'agent principal, cette toute-puissance vis-à-vis du corps était plutôt le fait du Verbe de Dieu lui-même que de l'âme du Christ. Voyez, retrouvons-la. Enfin, on peut toujours considérer les deux manières. Autrement dit, l'âme du Christ peut être envisagée à un double point de vue. Premièrement, au point de vue de la puissance et de la nature. Deuxièmement, considérée comme instrument. Alors, voyons tout de suite la seconde objection. La seconde objection, qui est la nature humaine du Christ était plus parfaite que celle d'Adam. Or, dans l'état d'innocence et de justice originelle, le corps d'Adam était entièrement soumis à son âme. Et bien que rien ne pouvait s'y produire contre le gré de l'âme, à plus forte raison par conséquent l'âme du Christ. Nouvel Adam. Alors, réponse. La justice originelle que possédait Adam dans l'état d'innocence ne lui permettait pas de transformer son corps à volonté. C'est merveilleux. Il serait devenu ailé subitement, transformer son corps pour devenir aérien. Mais seulement de le préservé de tout ce qui pouvait lui nuire. Une telle puissance, autrement dit, la nature demeurait avec ses limites et ses déterminations. Une telle puissance, le Christ aurait pu l'assumer s'il l'avait voulu. Mais comme il y a pour l'homme trois états, l'état d'innocence, l'état de culpabilité, l'état de gloire. De l'état de gloire, le Christ a assumé la vision béatifique. De l'état d'innocence, il a assumé l'exemption du péché. Et enfin, de l'état de culpabilité, il a assumé cette nécessité dans laquelle nous sommes de nous soumettre aux pénalités de cette vie, ainsi que nous le dirons plus loin. C'est assez joli, ça. La petite synthèse, là encore. Le Christ a assumé les trois états. L'état de gloire, l'état d'innocence et l'état de culpabilité. Autrement dit, Jésus n'est pas retourné au paradis terrestre. Il a accepté le conditionnement conséquence du péché originel. Pas tous, hein, pas ceux qui relèvent de la faute, mais ceux qui relèvent de la déficience, en quelque sorte. Un corps plus fragile. Là, c'est à retenir, c'est très intéressant et c'est très beau, c'est une très belle vision, ça. Oui.
Quel est le lien avec le statut de viateur, enfin de pèlerin?
C'est justement, c'est ça, c'est que le conditionnement. Vous voyez, c'est le point de vue de la gloire, donc le met au-delà du viator. L'état d'innocence lui permet d'être le premier parmi ceux qui sont in via. Et l'état de les conséquences de la culpabilité, enfin l'état de culpabilité, lui permet d'être en connaturalité avec tous ceux qui sont in via. Donc les deux états regardent le point de vue du viator. Les deux derniers. Voyons, dernière objection. Comme nous l'avons montré dans la première partie, les changements du corps dépendent naturellement de l'imagination. Et cette dépendance est d'autant plus grande que l'imagination est plus forte. Alors il y a une puissante imagination, et puis subitement vous apparaîtrez tout à fait différent, comme le jardinier du coin. Hein, c'est ça, une puissante imagination. Mais l'imagination du Christ, comme les autres facultés de son âme, était très parfaite. L'âme du Christ était donc toute puissante sur son propre corps. Le corps obéit, répond saint Thomas, le corps obéit naturellement à l'imagination quand elle est forte, pour certaines choses seulement. C'est ainsi qu'elle le fait choir d'une poutre haut placée. L'imagination est en effet par nature principe du mouvement local, ainsi que l'enseigne Aristote. C'est très amusant. De même, en effet... De même, en ce qui concerne les altérations de chaleur ou de froid subies par le corps ou leurs conséquences, l'imagination en effet provoque naturellement les passions de l'âme, lesquelles mettent en mouvement le cœur et par la commotion des esprits animaux. Tout le corps se trouve altéré. Mais il est d'autres dispositions corporelles qui n'ont pas de rapport naturel avec l'imagination et ne sauraient être atteintes par elle, quelque puissante qu'elle soit. Ainsi, la forme de la main ou du pied ou autre chose semblable. Alors vous voyez, c'est très intéressant, c'est très très intéressant à étudier ça. Jusqu'où va le pouvoir de l'imagination sur la transformation du corps? C'est évident qu'il y a un pouvoir assez étonnant de l'imagination. L'état pathologique de l'angoisse. Jusqu'où l'imagination nous fout dans l'angoisse. On peut très bien n'avoir aucune espèce de dérèglement organique, n'est-ce pas? On fait un examen. Au fond, rien. Le médecin conclut, tout après avoir fait un soin, organiquement bien. Et puis on est dans un état de lassitude, on est dans un état d'énervement, qu'on ne peut rien faire. L'imagination. Vous savez, les points de vue des mères et l'imagination. Ça joue beaucoup, beaucoup. Ça joue énormément. Évidemment, pour changer votre pied, c'est difficile. D'avoir tout d'un coup un pied crochu à cause de l'imagination, c'est difficile ça, c'est difficile à changer. Vous voyez, morphologiquement, l'imagination ne joue pas sur l'aspect morphologique, mais l'imagination joue sur l'aspect du monde des nerfs.
Oui. Quand on voit certains qui arrivent par psychologiquement à se stigmatiser ou...
Oui, ben c'est sûr. Alors il y a des choses d'intervention par... Le cardinal Philippe m'avait toujours raconté cette histoire extraordinaire. Il l'avait appelé, parce que ça, il s'intéressait beaucoup à ça, donc on l'appelait de Rome assez facilement. Il avait vu une religieuse qui avait le jeudi soir et le vendredi toujours les stigmates et la sueur de sang. C'était très impressionnant. Et un sang brûlant. On mettait de la ouate, ça, la ouate brûlait. On s'est aperçu que c'était vraiment démoniaque. Et on s'est aperçu par l'épreuve de l'obéissance. On a demandé à la religieuse telle ou telle chose, elle a refusé d'obéir. Et dès qu'on a dépisté que c'était l'orgueil, ça n'a plus existé. Que c'était l'orgueil et la désobéissance n'a plus existé. Oui, c'est l'imagination.